you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Ledio et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Julien Domain. Réalisation Daniel Finot. Ce soir, Corinne Rondeau, Lucille Comeau, Thierry Chaise et Antoine Guillot sont autour de moi. À notre affiche, The Lost City of Z de James Gray, Félicité d'Alain Gomis et Orpheline d'Arnaud Despalières. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans le petit salon pour évoquer l'article de Richard Brody paru il y a quelques jours dans le New Yorker qui parle de la mort du cinéma d'auteur français. Il y aura bien sûr encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du film Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier distribué par Pathé. Et nous ouvrons cette émission avec le dernier film en date de James Gray, l'un des chouchous de la critique et du public, grand habitué de Cannes, où il avait présenté ses quatre films précédents, mais dans le nouveau film, donc The Lost City of Z, est sorti hors festival, ce qui est quand même une vraie bizarrerie pour lui, parce que son premier film, son meilleur à mon sens, Little Odessa, avait été justement primé à Venise. James Gray poursuit donc son exploration du film d'époque après The Immigrant, mais sous d'autres latitudes, de la Grande-Bretagne à l'Amazonie, en passant par la France de la Première Guerre mondiale, avec cette histoire d'aventurier à la recherche des traces d'une civilisation ignorée des Occidentaux.
You are the explorer? Give me a hand.
I wish to find a lost city.
What you seek is far greater than you ever imagined. It is your destiny.
He'll not know you when you return.
I know this is a sacrifice for all of us.
The environment's brutally difficult. The journey may well mean your life. But you could reclaim your family name.
Ain't nobody comes back from up there.
But we've never let fear determine our future.
What did you hope to achieve out here?
If we may find a hidden civilization where one was considered impossible to exist, we may well write a whole new chapter in history. Call it Zed. It is there. And we must find it.
Voilà pour cette bande-annonce de Lost City of Z, sortie il y a bien longtemps, donc beaucoup de nos auditrices et auditeurs ont pu voir déjà ce film. Bon, pas vous, Corinne Rondeau, vous êtes trompée dans les dates, vous croyez que c'était pour la semaine prochaine. Donc vous allez passer votre tour, vous avez un joker, vous avez tiré la carte joker, ça arrive à tout le monde. Mais Lucille Comeau va se faire plaisir et c'est elle qui va ouvrir le bal. Depuis le temps que vous me bassinez avec ce film de James Gray, Lucille, disons les choses comme elles sont.
Il faut le dire, on l'avait pas mis au programme et à mon sens, c'était quand même dommage.
Ça fait 6 mois que vous réclamiez que ce film soit
parce que j'aime beaucoup James
six
Gray
mois avant
et
de l'avoir
j'étais
vu.
Quand même très curieuse de ce projet qui est un projet que James Gray a depuis quand même fort longtemps. Ça a été difficile, le tournage a été long. Les acteurs, c'était pas simple. Je crois au départ, c'était pas les acteurs qui voulaient. Puis bon, voilà. Finalement, le projet a été abouti. Moi, je trouve que c'est un très très beau film. Alors, je sais que c'est pas votre
non,
idée, Arnaud.
Non, mais vous dévoilez des choses.
Non, mais en même temps, j'ai l'impression de devoir directement défendre quelque chose.
Mais non. Donc,
c'est un grand film avec une grande ampleur à la fois temporelle, puisque ça se passe sur plus de 20 ans, et une ampleur géographique, puisque ça se passe en effet dans 3 lieux différents. Avec moi, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé des personnages qui sont très peu incarnés, qui sont pas du tout des personnages avec des psychologies particulières, mais qui sont vraiment des figures. Et ça, ça m'a gênée au départ. J'ai eu plein d'impressions très différentes, en fait, au cours du visionnage du film. Ça m'a gênée au départ. Je trouvais cet acteur, je sais plus son nom d'ailleurs, je l'ai pas sous les yeux, qui interprète, voilà, le héros, très plat, très, voilà, un visage très lisse, très beau et peu intéressant. Et finalement, c'est ce qui fait l'intérêt de ces personnages, d'être des sortes de figures. Moi, j'ai beaucoup pensé à la bande dessinée, j'ai beaucoup pensé à Tintin, comme référence possible dans cette manière d'aborder le film d'aventure. Et justement, ce manque d'incarnation fait, à mon avis, la beauté de ce film que je trouve par ailleurs, sur la photo, sur l'image, magnifique. La musique, là, j'en parlais pendant qu'on entendait cette bande-annonce qui, comme d'habitude, ne retranscrit pas du tout la qualité de la musique, est magnifique comme tous les films de James Gray. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très beau film.
Bon, voilà pour une première impression. On viendra dans les détails vers vous, Lucille. Antoine Guillot sur The Lost City of Z.
Alors, contrairement à Lucille Como, je n'aime pas beaucoup James Gray. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé au début, quand j'ai découvert Little Odessa, et puis il n'a cessé de me décevoir, avec cette impression étrange.
C'est mon texte, non? Antoine, en fait, je...
Oui, changé, non, ou... mais nous avons parfois des trajectoires communes.
Ça m'étonne toujours.
Dans le cinéma où ces films étaient souvent très prometteurs et puis s'effondraient à un moment de plus en plus vite. C'est-à-dire que pour The Yard, c'était aux deux tiers. Pour La Nuit nous appartient, c'était au premier tiers. Et puis les deux suivants, To Lovers et The Immigrant, étaient totalement ratés à mon sens. Donc je faisais un peu une croix sur James Gray. Et j'ai été très heureusement surpris par ce Lost City of Z. Alors pour le coup, pour des raisons totalement opposées. À celle de Lucille Como, c'est-à-dire c'est justement le côté pas Tintin de ce film d'aventure en Amazonie où toutes les péripéties sont évacuées très vite, c'est-à-dire tous les passages obligés de l'attaque des Indiens, les piranhas, les cannibales, tout ça passe très très vite. Même la découverte éventuelle de cette cité se réduit à pas grand-chose, un bout de poterie par-ci, une tête sculptée par là, à partir duquel se génère tout un univers de fantasmes dans une jungle qui est complètement neurasthénique. C'est ce qui m'a le plus plu dedans. Et évidemment, on pense forcément au film de Werner Herzog, que ce soit Giro Fitzcarraldo, avec des citations presque tellement directes, l'opéra dans la jungle, la référence au conquistador, est-ce qu'ils ont détruit cette civilisation en allant la découvrir, mais qui finalement, là encore, est très vite évacué. On bascule pas dans la folie, on bascule pas dans la rédemption, on bascule pas dans tout un discours. On est vraiment dans la mélancolie permanente de cet homme qui cherche ailleurs ce qu'il n'a pas chez lui. Alors, c'est toujours pareil chez James Gray. Il y a le poids de la famille, des traditions. Donc là, c'est un pays tout entier qui pèse sur ses épaules. L'Angleterre, en fin de période victorienne, vraiment étouffante, socialement parlant. Surtout quand, comme dit un des personnages, on a fait l'erreur de ne pas choisir le bon père. Donc on est toujours, là encore, comment survivre quand on est un mauvais fils et qu'on a un mauvais père. Sauf que, sans doute que James Gray a mûri depuis, et finalement il n'est plus tellement un fils, c'est plus tellement ces interrogations-là qu'il travaille, mais c'est plutôt celle de comment devenir un père. Et alors, si devenir un père, c'est entraîner son fils dans sa folie, je trouve ça assez beau, finalement, cette manière de présenter les choses. Donc après, il y a beaucoup de remarques à faire sur des dialogues très didactiques, dont je serais volontiers passé, sur la place des femmes dans cette société-là, sur l'éventuelle âme des indigènes, sont-ils plus ou moins civilisés que nous. Tout d'un coup, on rentre dans du discours, alors que tout ça nous passait très bien par l'image, il me semble.
Thierry Chaise, enfin, sur James Gray, son nouveau film.
Moi, je suis plutôt du camp de Lucille. Moi, j'aime beaucoup James Gray, même si mon préféré, c'était le dessin, mais j'avais beaucoup aimé, moi, To Lovers et La Nuit nous appartient, un peu moins Immigrant. Et là, j'ai été vraiment conquis, moi aussi. Conquis, un, parce que il y a un mélange que je trouve vraiment très réussi d'ampleur dans justement ce qui est montré et d'intimité dans la possibilité de rentrer justement au cœur de cette famille, au cœur de cette relation père-fils très importante, sans que l'un et l'autre ne viennent jamais s'affronter, mais au contraire, parviennent à se nourrir. Je pense que le travail de Darius Kanji dans La Lumière est en effet impressionnant. Et puis au final, j'ai l'impression que ce film, c'est un peu une parabole aussi de tout ce qu'est le cinéma de James Gray par rapport à ce qu'on en pense. C'est-à-dire que, en effet, toutes ces découvertes, tout ce qu'on voit, il n'y a rien finalement d'exceptionnel. Il n'est pas reconnu à la valeur dont il rêve. Et quand on sait que James Gray aux États-Unis, Little Odessa n'était jamais sorti, ses films ne sont pas reconnus, il n'est jamais nommé aux Oscars. Voilà un projet qui devait être interprété par Brad Pitt, puis par Benedict Cumberbatch. D'un seul coup, il n'existe plus. On prend Charlie Hunnam, qui est une espèce de copie, une sorte de Brad Pitt du pauvre sur le papier. Et en même temps, ça marche. Je trouve qu'il y a un génie de ce réalisateur à chaque fois à nous entraîner là-dedans. Et une fois encore, ce choc entre l'ampleur et l'intimité, moi, m'a vraiment, vraiment emporté. Avec le même bémol, pour le coup, qu'Antoine, en effet, sur certains dialogues où je trouve que c'est inutile. C'est comme des petits trous à un vélo. On peut les enlever. Le film aurait été encore plus loin.
Bon, bah alors, carton plein, Lucille Gaumont. Bah, je sais que Corinne Rondeau pense comme moi, j'aurais pas trop m'avancer, mais vraiment, bah, j'ai trouvé à peu près aucun intérêt à voir ce film dont vous n'avez pas dit quand même qu'il dure 2h30 d'un ennui qui est pour moi vraiment, qui était mortel. La mélancolie, j'aurais bien aimé la sentir. Moi, j'ai vu un film grandiloquent, extrêmement bavard, extrêmement sentencieux. On a entendu là dans cette bande-annonce des grands discours là qui sont vraiment épouvantables de cet aventurier devant ses pères, une sorte de discours humaniste, philanthrope et très très creux. Le travail sur la photo, ça suffit pas. Darius Kondji, c'est un génie, ça fait longtemps qu'on le sait. Alors faire des tirages photos de chaque photogramme du film, pourquoi pas, mais voilà, on peut apprécier la délicatesse vraiment de l'image. On voit bien qu'il a regardé la peinture anglaise de cette époque, donc ça c'est très très bien. Mais il y a quand même beaucoup de grandes questions qui sous-tendent ce film, et alors elles sont tellement pas abordées, ou alors tellement lourdement abordées, que moi j'avoue que je tombais de mon fauteuil à chaque séquence, ou à peu près, tellement les questions sont soit effleurées, mais de façon extrêmement schématique, ou de façon extrêmement lourde, enfin... une bien-pensance dégoulinante de chacune des séquences, les rapports mari-femme, père-fils, enfin, vraiment tout est extrêmement sirupeux, englué. Et moi, j'ai l'impression que c'est lui qui s'est, James Gray, qui s'est complètement englué dans cette histoire. Et en fait, au final, voilà, ce qui m'a le plus gêné, pour résumer les choses, c'est que je ne sais pas du tout ce qu'il veut nous raconter, James Gray, avec ce film. Mais comme vous l'avez compris, contrairement à moi, qui suis trop...
Il raconte quoi? En effet, ces scènes de discours sont... Enfin, moi, plombantes. Ça m'a aussi imposé un petit peu problème, notamment la scène avec la femme, je suis tout à fait d'accord. C'est une des premières choses que j'ai notées. Je trouve que cette scène de confrontation sur la question de la femme, qu'est-ce que fait la femme, quelle est sa place dans sa famille à cette époque-là en Angleterre, c'est lourd, mais je sais pas, je fais crédit à James Gray, peut-être à tort, de pas prendre toutes ces scènes au premier degré, et du coup, de les évacuer, en effet, en faisant des choses volontairement schématiques.
C'est-à-dire c'est vraiment du crédit, oui, c'est sûr que vous lui faites.
Toutes ces questions politiques sur l'âme des indigènes, etc., moi je trouve que mis en balance avec les grandes scènes qui sont quand même les plus importantes qui se passent en Amazonie. Par exemple, sur la relation entre le père et le fils, en effet, il y a des scènes extrêmement plombantes de confrontation sur ce que c'est qu'être le fils de tel type de père. Mis en balance avec la scène finale qui est magnifique et qui remet tout ça en question parce que justement, c'est impossible de décider ce qu'a vraiment été la relation entre ce fils et ce père-là, ce qu'ils ont pu partager. Je trouve que c'est rien, à la limite. Donc, on s'en fiche. C'est une manière d'évacuer toute la question sociale, toute la question politique, en la prenant en compte de manière, je trouve, plutôt intelligente, justement. Mais bon,
peut-être que moi, je lui en fais pas assez, mais vous évoquiez Werner Herzog, bon, on est obligé d'y penser.
Mais justement, c'est très intelligent la manière qu'il a de l'évacuer, c'est-à-dire qu'on y pense forcément.
Je dirais ma phrase.
Non, mais c'est vrai qu'on y pense forcément et qu'on forcément.
Mais c'est pas du tout intelligent de l'évacuer, c'est épouvantablement dérangeant et gênant pour James Gray d'oser faire entendre de l'opéra dans la jungle et d'être aussi sec sur ce qu'il a à dire, sur ce qu'il a à nous faire ressentir, et du lieu, et du rapport de l'homme blanc dans cet univers-là, et effectivement des scènes de pirogue, quelle idée il a de convoquer aussi frontalement vers la raison, alors qu'il est un nain par rapport à ces films qui sont, eux, pour le coup, pour moi, des chefs-d'œuvre intemporels, immortels, et qu'on peut voir et revoir. Ce film-là, franchement, a glissé sur moi d'une façon telle que oser convoquer Werner Herzog, je trouve que c'est au contraire d'un orgueil de sa part absolument démesuré.
Mais non, je crois que justement parce qu'il ne cherche pas du tout la même chose, c'est-à-dire que là où Werner Herzog nous convoque une extase, quelque chose d'extrêmement fort qu'on ressent, si le film doit raconter quelque chose, il me semble que c'est l'histoire de quelqu'un qui voudrait être un grand homme, et c'est comme ça que je ressens moi ces discours que vous avez trouvés très grandiloquents, mais qui me semblent être filmés de façon grandiloquente. C'est quelqu'un qui voudrait avoir sa médaille, qui voudrait être reconnu
parmi
ses pairs, qui voudrait avoir fait sa grande découverte, qui voudrait avoir un grand discours à porter. Sauf
et
que
alors
tout ce qu'il Oui, mais c'est comme ça qu'il le filme, ces discours que vous avez pris comme un mauvais premier degré. Moi, je le ressens vraiment comme quelqu'un qui essaye de trouver cette place. Et la place qu'il va peut-être trouver, c'est celle de la disparition. C'est un film extrêmement déprimant. Hein. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. C'est un film qui va vers quelque chose qui disparaît, alors qui peut être l'Angleterre, qui est peut-être une idée de la civilisation occidentale, mais qui n'est pas là pour dire, regardez, on est égaux avec les Indiens, ils avaient aussi une grande civilisation. C'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent une vraie disparition. C'est une sorte de film de suicide que je trouve admirablement raconté, pour le coup.
Ouais, il vous a raconté la même chose,
oui,
Thierry
Chaise. Mais moi, j'ai été très, très sensible et très ému par le film. Et moi, j'ai l'impression d'une forme d'autoportrait, comme je disais justement, avec il se voit lui-même peut-être en réalisateur qui a envie d'avoir des médailles, qui a envie d'être reconnu et qui se fracasse à chaque fois sur quelque chose. Et voilà, c'est ça qui m'a aussi touché.
C'est ça, je comprends pourquoi ça m'intéresse pas.
Mais ça m'a aussi
vraiment
touché.
C'est un propos d'une ineptie totale.
Non, mais c'est pas que ça. Mais on peut y voir aussi là-dedans, quand on voit ses films, quand on voit la manière dont il a du mal à les faire lui aussi, comme cet aventurier a du mal à trouver de l'argent, comme elle a du mal à être connue, on peut aussi lire ça. Et je trouve...
Un type qui est en sélection dans tous les grands festivals depuis...
Et où il n'a rien.
Oui, mais...
Et où ses films aux États-Unis sortent dans... Vous dites James Gray, un Américain, il n'en a jamais entendu parler. Mmh. Jamais entendu parler. C'est quelqu'un qui n'est pas reconnu du tout dans son pays, mais absolument pas. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le film en lui-même. Et moi, j'ai trouvé justement que sur cette relation père-fils, en effet... La dernière scène rattrape tout le reste et qu'on est emporté. C'est vrai que c'est pas un film qui vous fait un chantage à l'émotion, mais moi, tout le long, il y a quelque chose de retenu qui fait que ça m'a justement tenu là-dessus et que les 2h20 m'ont pas paru interminables.
Ah, c'est 20, je crois que c'était
2h20. C'est pas, je préfère corriger.
Non, mais vous faites bien, soyons précis, absolument dans les durées. Bon, mais j'aurais bien aimé voir le même film que vous, hein. Je me sens très seul. Mais bon, de toute façon, le film marche, non? Les chiffres sont bons.
Plutôt bon.
Bon, il est reconnu en France, il devrait être content, James Gray, il est reconnu par les Européens qui déclinent, on va en parler dans un instant. C'est peut-être pour ça qu'on l'aime, nous, c'est parce qu'on aime le déclin. Hein, nous sommes la vieille Europe du déclin. Bon, Corinne Rondeau, un commentaire sur notre
James Gray. Je n'ai rien compris, et donc c'est un biopic sur James Gray, c'est ça?
Voilà.
Ok, d'accord.
Oui, mais heureusement qu'on me le dit, parce que...
Père-fils, l'histoire de l'Angleterre, je n'ai pas bien compris, en fait. Pourquoi bon. Parle ce film?
Eh bien, écoutez, vous irez voir le film, et on vous passera un petit coup de fil pour recueillir vos impressions. The Last City of Z, du très malheureux James Gray, mais très aimé dans notre pays, et donc sur un bon nombre de bons écrans.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute Félicité et Orpheline. Avant cela, nous suivons Lucine Comeau dans le petit salon. Alors, Lucille, ce soir, c'est vrai que j'arrive à vous lire une grande kiss-kiss.
Non, tristesse.
Ah, tristesse, vous avez écrit tristesse. Oh. Je montre à Thierry Chaise, hein, il y a marqué une grande kiss-kiss.
C'est pas moi qui écrit grande... très mal, qui vais dire quoi que ce soit.
Une grande tristesse.
Oh, tristesse.
Encore.
Oui, c'est la tristesse de Richard Brody. Richard Brody, critique de cinéma au New Yorker, qui la semaine dernière, comme il le fait souvent, a pris la plume pour
Antoine
parler
Guillaume
de cinéma
qui peut
français.
Parce qu'il a un fauteuil à déménager. Hein. Ce soir, ça ne va pas du tout. Pardon, allez, on reprend le début du petit salon. Une grande tristesse encore.
Celle de Richard Brody,
oui.
Critique de cinéma au New Yorker, qui a pris la plume, comme il le fait souvent, parce qu'il est spécialiste de ce cinéma-là, entre autres, pour parler de cinéma français à l'occasion d'un événement qui se déroulait à New York, Rendez-vous with French Cinema, qui est organisé tous les ans par Unifrance. Richard Brody venait de voir le film de Claire Simon, Le Concours, et il n'était apparemment pas de très bonne humeur. Alors pour rappel, Le Concours est un documentaire qui est sorti il y a quelques semaines ici en France, qui suit les candidats au concours de la FEMIS, l'école de cinéma public, certainement la plus prestigieuse et la plus connue dans notre pays. Alors non que le documentaire ait déplu à Richard Brody, il n'en fait pas vraiment la critique, mais il l'a conduit à une conclusion terrible qui tombe comme un couperet dès la fin du premier paragraphe. La France n'a pas engendré de grands cinéastes depuis 30 ans. Alors, je donne la substance de l'article. Richard Brody ne prétend pas qu'il n'y a eu aucun bon film en 30 ans en France, mais que les réalisateurs qui font un premier bon film ne confirment pas l'essai et surtout que, encore jeunes, ils vieillissent à vitesse accélérée.
La raison, selon le critique, elle est à trouver dans un système de financement et de production rigide, je cite, un système que le film de Claire Simon révèle bien. La Fémis, en effet, de par son histoire, serait intimement liée à une politique du cinéma française volontariste, orientée vers l'exportation de films, qui a moins l'ambition de cultiver les talents artistiques de ces jeunes pousses que d'assurer une certaine production mainstream, je cite, à même de résister aux assauts du cinéma américain. La célèbre école publique serait un lieu fondamentalement conservateur dont le concours d'entrée révèle le caractère scolaire et étroit d'esprit. On sent dans l'article de Richard Brody de vrais regrets, presque de la tristesse. Il faut rappeler que c'est un grand amateur de cinéma français. Il a écrit beaucoup sur le cinéma de la Nouvelle Vague, notamment sur Godard. On sent qu'il s'excuse presque de ce constat et laisse quand même entrevoir la possibilité d'un changement fondamental et de l'éclosion d'un talent original. D'ailleurs, il a écrit le lendemain même un papier très louangeur sur le dernier film de Bruno Dumont, Maloute. Mais dans le fond, la critique est sévère. Ce qui est étonnant surtout, c'est qu'elle s'appuie sur des arguments peu étoffés, un peu primaires, sur le système de financement public qui étoufferait la créativité, au fond quelque chose d'une bataille éculée entre le vieux continent et l'école libérale américaine. Richard Brody surtout ne cite aucun exemple, aucun film en dehors de ce documentaire de Claire Simon qu'il fait mine de prendre comme base théorique pour son propos mais qu'il n'analyse même pas vraiment. Alors qu'il y a, à mon avis, beaucoup de choses à dire sur ce que ce film, justement, révèle de la manière française de faire du cinéma, ou peut-être justement de considérer le cinéma. Alors, je ne vais pas vous demander, à l'inverse, de me citer les grands cinéastes français de ces 30 dernières années, qui sont pour vous des cinéastes historiques, ce serait assez vain. Mais selon vous, que révèle cet article de la manière américaine de penser le cinéma français? Et peut-être aussi, comment vous expliquer qu'il articule cette critique et ce fameux film de Claire Simon sur la Fémis?
Thierry Chaise. Ouvre le bal, parce qu'il a une mauvaise écriture.
Oui, voilà, je peux suivre. Voilà. Encore vraiment. Moi, j'ai du mal à comprendre vraiment cet article tout court. C'est-à-dire que dans l'idée, la première idée qui est l'opposition, enfin, le cinéma français qui se construirait à la Fémis pour résister au cinéma américain, on va regarder les chiffres tout simplement. C'est très simple, les chiffres d'entrée. Ce qui résiste au cinéma américain, ce sont les comédies façon camping, dont les cinéastes, les producteurs et les réalisateurs et les scénaristes ne sortent pas de la Fémis. Donc, ce premier point déjà me paraît bizarre. Ensuite, c'est étrange qu'il y a tout un regard, notamment quand on va à Sundance où parfois les journalistes américains sont énervés que les Européens parlent des films de Sundance au sens large, au sens précis, comme s'il n'y avait pas plusieurs films. Et d'un seul coup, là, il nous fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il présente le cinéma français, qui est quand même riche chaque année de 150-160 films, avec une vision totalement parcellaire. Après, on peut trouver que tel auteur ou tel auteur on en reparlera dans 50 ans ou non, mais la présentation de tout ça est très bizarre. Et autre chose, c'est quand on discute avec les cinéastes américains, les jeunes cinéastes américains du système français, moi, j'ai rarement entendu un seul dire « Oh là là, heureusement qu'on n'est pas en France, parce que sinon, qu'est-ce qu'on serait corseté dans ce qu'on a envie de penser ?» Ils sont aussi financés par d'autres gens, des mécènes qui, peut-être, les amènent ailleurs. Donc, je trouve que chaque élément pris séparément est extrêmement étrange. Et en effet, c'est pas surprenant qu'ils ne citent aucun nom, puisque je ne vois pas les noms qui peuvent être attachés aux exemples qu'ils donnent et aux arguments qu'ils donnent.
Ouais, ils ne peuvent pas mettre de noms, puisqu'il n'y en a pas. Bah, c'est ça, oui. De nouveau, ce nom, je plaisante.
C'est le cabinet noir, j'ai l'impression.
On peut lui donner une liste de noms. Oui. Nous, en lui répondant, mais Antoine Guillot, je fais le tour de table.
Effectivement, il mélange un peu tout. C'est-à-dire d'abord, le film de Claire Simon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'est pas un film sur la Fémis, c'est un film sur le concours d'entrée de la Fémis. Donc, toutes les attaques de Brody sont là pour dire on formate, donc il faudrait qu'on voit ce qui se passe pendant les années d'études et comment on y apprend. Ensuite, le gros reproche qu'il fait à cette école, c'est d'être une école d'État. C'est-à-dire, pour lui, derrière ça, c'est effectivement le gouvernement finance des films. Donc, avec l'idée très américaine que si le gouvernement met les pieds quelque part, c'est pour orienter, pour décider. Donc, il y aurait une sorte d'école gouvernementale du cinéma où on dirait comment il faut faire des films pour former un certain goût.
Paris-Moscou, même combat.
Alors, c'est, évidemment, si on regarde le film de Claire Simon, c'est plus compliqué que ça, puisque c'est un film qui pourrait s'appliquer à plusieurs autres écoles ou à toutes les formes de reproduction sociale en France. C'est-à-dire, effectivement, on voit comment un jury composé de professionnel va finir par recruter des gens qui lui ressemblent ou qui ressemblent en tout cas à l'idée qu'ils se font de la Fémis et au-delà de l'idée qu'ils se font du cinéma. Mmh. Pour autant, est-ce que c'est dans les écoles d'art qu'on forme les artistes et ceux qui vont donner des formes innovantes on pourrait se poser la question pour à peu près toutes les écoles d'art en France et dans le monde. C'est là qu'il mélange, un peu tout. C'est-à-dire qu'il reproche à la FEMIS de ne pas créer des artistes. Mmh. Mais quelle école arrive réellement à créer des artistes?
Oui, et puis dans la liste des 120 ou 160 films qui sortent chaque année, il faudrait voir le pourcentage de gens qui viennent de la FEMIS, forcément... petit, mécaniquement. Quoi,
vu le nombre d'élèves par promotion.
Corinne Rondeau.
Non, mais quel âge a-t-il?
Oui, non, mais c'est ça la bonne question, je crois aussi.
Il a 70 ans peut-être.
Oui, ouais, ben voilà, c'est passé. Enfin, vous ne pouvez pas réclamer. Vous ne pouvez pas vous réclamer du génie de l'artiste en permanence. Bon, la nouvelle vague, ça a été effectivement des gens qui étaient décalés, qui ont été des critiques, qui sont passés à l'acte avec une caméra, qui sont devenus des réalisateurs tels qu'on les connaît. Bon, après, vous ne pouvez pas lire les nouvelles générations à l'aune de la nouvelle vague. C'est absolument impensable. C'est pas la même époque. C'est une époque où tout éclate, où tous les possibles sont possibles. Je veux dire, aujourd'hui, les difficultés sont pléthore. Et je pense qu'en fait, cette lecture n'est liée qu'à l'idée du concours, l'idée de... Voilà, et vous avez parfaitement dit qu'effectivement, un concours, c'est un membre du jury qui veut voir dans le miroir ce que vont être, ce qu'ils pourraient être et ce qu'ils sont aussi. Donc à un moment donné, il faut... Oui, voilà, je pense qu'il y a aussi plein de journalistes qui, à un certain âge, ne savent plus ce qu'ils écrivent, parce qu'il faut écrire tout de même par rapport à ce... Je sais pas, un changement même culturel dans son propre pays. Donc, moi, j'entends un peu un phrasé romantique du génie, un appel au génie. Le génie, c'est celui qui va sortir au milieu de tout, qui va casser les codes, etc. Bon, on sait bien que là où les codes ont été modifiés, c'est quand même un ensemble d'individus qui se sont collés sans même prétendre le faire. Voilà, mais c'est aussi, il faut jouer avec l'environnement. Et l'environnement n'est pas propice, je pense, à une liberté, mais pas simplement parce qu'elle ne serait pas autorisée, simplement parce qu'il manquerait de l'argent, ou il y en aurait trop, ou il y aurait trop d'argent qui donnerait trop de moyens, et alors là, il n'y a plus de génie. Et puis après, il y a de l'autre, ceux qui n'en auraient plus, alors ils peuvent rien faire. Alors en fait, que la création, elle est toujours possible dans tous les cas. Sauf qu'effectivement, on n'est peut-être pas à l'époque qui est propice, enfin moi, de mon point de vue, de vieille, qui commence à l'être, mais moins que Brody tout de même, je pense qu'il y a quelque chose d'une pesanteur. Je veux dire, même l'idée de créativité, c'est trop lourd, ou de création, c'est trop lourd. Et on veut peut-être changer les choses à un endroit où, voilà, on sait plus, on est frileux, ou on a une inquiétude. Et puis parce qu'il y a toujours un retour très économique qui se joue à l'endroit d'une culture de l'industrie telle que le cinéma, par exemple, ou même qu'il devient avec... autre chose qui sont l'art contemporain. Donc je pense que ce texte et l'art de cet article est l'ouvrage d'un homme d'une certaine époque, ayant vu un bouillon de créativité à une certaine époque et qui est dans une nostalgie que sans doute lui a renvoyé l'idée que la France pouvait être simplement un concours d'entrée. Il y en a d'autres, malheureusement, il faudrait le lui dire.
C'est très drôle que depuis justement quelques années, plein d'acteurs américains aient quand même envie de travailler avec des cinéastes français. Mmh. Ce sont même des films plus ou moins réussis, mais Nathalie Portman a travaillé avec Rebecca Zlotowski, Desplechin avait fait un film aux États-Unis, là, Jacques Audiard s'est prêt à tourner avec Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix et John C. Reilly. Donc ça veut dire que les gens qui sont artistes eux-mêmes dans leur pays considèrent quand même qu'il y a quelques cinéastes français de ces 30 dernières années qui peuvent valoir la peine de les diriger.
Vous oubliez Luc Besson.
Je vous laissais le dire.
Ouais. Non, mais oui. Parce qu'on pourrait parler de l'école de cinéma de Luc Besson, dont sortent des gens tout à fait intéressants, qui sont certainement recrutés par d'autres types de personnes qui font le concours d'entrée de la famille. Ça ne donne pas des films plus ou moins intéressants. Ça donne une diversité aussi. Ça vous opinez ou vous...
Non, je comprends quand même, bon, c'est pas pour le défendre, cet article qui est en effet un peu un fourre-tout, mais je comprends l'espèce de mélancolie qu'a pu lui inspirer ce film de Claire Simon, parce que ça m'a produit un peu le même effet. Alors, c'est pas du tout... Je l'explique
exactement. Vous avez à peu près le même âge
pas...
que Richard Brody, il faut le dire.
Non, je l'explique pas du tout de la même manière. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très déceptif, et je pense que elle assume d'ailleurs tout à fait ce point de vue-là sur l'école de la FEMIS, mais enfin sur le concours en effet, parce que c'est un film sur le concours, ça produit quelque chose de bon, ces mecs qui rentrent, quand ils parlent, ils sont pas très forts, ils ont pas l'air très bons, les jurés, leurs débats sont un peu basique. Il parle du génie, justement, de qu'est-ce que c'est un génie, est-ce qu'un réalisateur qui a pas l'air sympa, pour autant on l'exclut parce qu'il a l'air un peu fou, et est-ce qu'un réalisateur doit avoir des bons contacts avec... C'est un peu primaire, quoi, tout ce qui se dit, je trouve, au sein des jurys. Et ça produit un effet un peu déceptif à la fin. Bon, les candidats ont été choisis. C'était pas si terrible ce qu'ils avaient raconté. Je sais pas. Ça m'a un peu produit cet effet-là.
C'est encore l'idée. Corinne Rondeau, d'abord.
Non, mais c'est dommage qu'il n'ait pas joué le rôle de critique, là, pour le coup, Brody. Et qu'il ait justement.
Parler du film.
Oui, parler du film, c'est-à-dire, il y a quand même une réalisatrice derrière qui filme ça. Donc, à un moment donné, il ne faut pas emboîter le pas et faire une mise en abîme qui est peut-être même pas le propos de la réalisatrice. Ça me paraît quand même pas faire le jeu de la critique. Ça me paraît être en surplomb de ce que devrait être le monde du cinéma, quoi.
Antoine Guillaume, pour finir.
Oui, avec cette façon très étrange quand même pour lui de finalement juger de futurs cinéastes, tout gamin, n'ayant même pas encore commencé l'école, tout pétrifié devant un jury, disant des bêtises, comme on peut tous le dire, dans des situations un peu de tension, en se disant « je ne vois pas les futurs géniaux cinéastes ». Bah, écoutez, si vous êtes encore vivant, Richard Brody, dans 30 ans, ce dont je doute, on pourra toujours en rediscuter. On verra qui de ce film a fait des films intéressants.
On sera peut-être plus là non plus, en tout cas. Hein.
Probablement pas non plus.
Il y a des chances.
On verra. écoutez notre best regards donc to Richard Brody. Une petite annonce au mi-temps de cette émission pour vous convier à partager un week-end entier avec France Culture au Centre Pompidou à l'occasion de l'événement Imagine, samedi 1er, dimanche 2 avril, du Parvis jusqu'au cœur du musée, en passant par le studio de radio, bien sûr, installé en plein forum. Le Centre Pompidou avec France Culture propose donc des rencontres, des débats, des fictions, des projections, des masterclass, des rendez-vous musicaux. Pour les masterclass, je vais vous donner ce programme-là. Le premier rendez-vous sera avec Marie Richeux, samedi matin à 11h15. Elle sera avec Gérard Fromanger. À 17h15, masterclass de Claude Lévesque par Nicolas Martin. Dimanche, j'aurai le plaisir d'animer la masterclass de Dominique A. à partir de 11h15. Et dimanche après-midi, 17h15, Bertrand Lavier avec Anaël Pija. Mais beaucoup d'autres rendez-vous. Antoine Guillaume, c'est samedi après-midi ou dimanche après-midi où vous occupez le Centre Pompidou ?
C'est dimanche après-midi.
Dimanche après-midi, hein.
À 14h. Caroline Brouet.
Jusqu'à pas d'heure.
Non, 14h, 16h, on reste au
restaurant. C'est que 2 heures, vous ?
Oui, nous, on est petits
joueurs. Vous ferez quoi ?
Eh ben, nous, on va se poser plein de questions sur comment est-ce qu'on se raconte la France d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on la dit, comment est-ce qu'on la représente, comment est-ce qu'on la goûte aussi, et puis comment on en rit aussi, parfois.
Tout ça en 2 heures, bravo. Ça sera donc dimanche après-midi, 14h, 16h, au Centre Pompidou, mais tout le week-end, donc. Imagine France Culture au Centre Pompidou. Vous allez voir sur le site de France Culture et vous aurez tous les détails du programme. Le programme de la dispute ce soir, deuxième film, celui d'Alain Gomis, un cinéaste précieux qui avait signé précédemment Les Très Beaux Andalusia et aujourd'hui Félicité, c'est son nouveau film. Il s'est vu décerner le Grand Prix du jury à Berlin en février, puis l'Étalon d'Or au festival du film panafricain de Ouagadougou, c'est le FESPACO, ça c'était au début du mois de mars. Félicité, c'est le nom d'une femme qui est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Elle est mère d'un garçon qui a 14 ans et qui est victime d'un très grave accident. Il doit être opéré, les soins coûtent cher, très cher, et Félicité va donc remuer ciel et terre pour son fils.
Madame Ola, Voyez-les se souder.
Félicité. Alors, il semblerait que le monde du cinéma découvre, enfin, le monde du cinéma, dans sa large acception, un cinéaste qui, quand même, travaille depuis de nombreuses années. Bon, on peut que se réjouir, hein, d'ailleurs, de voir un cinéaste qu'on aime recueillir enfin de l'attention, avoir des projecteurs braqués sur lui. En l'occurrence, c'est pour Félicité, qui sort demain sur les écrans. Thierry Chaise, pour commencer.
Oui, moi j'aime aussi beaucoup, et ce qui est bien, enfin moi je trouve en tout cas, c'est avec un film où, même si on le reconnaît, même s'il y a peut-être plus d'ambition, il n'a rien perdu pour moi de ce qu'il fait depuis le début, ce qui fait que je l'aime. Moi j'ai été emporté. Dès les 2-3 premières minutes de ce film, je suis totalement emporté, je ne suis plus au cinéma, je suis avec cette Félicité, avec la musique qu'elle chante, avec la manière dont d'un seul coup le cinéaste s'empare vraiment d'elle et va nous faire vivre, en effet, exactement ce que vous avez raconté, c'est-à-dire son combat pour essayer, cette course contre la montre, pour essayer de sauver la jambe de son fils. Des éléments qui, racontés sur le papier, pourraient donner un film très démonstratif, justement, avec, et au contraire, puisqu'on est totalement emporté avec elle, on est complètement soumis à cette manière, en effet, d'être ancré dans une réalité très rude. On va pas la nier, c'est pas un film exotique, c'est pas un film qui essaye de dire, oh là là, c'est pauvre, mais qu'est-ce que c'est beau. On est vraiment dans cette dureté-là. Et en même temps, on sent qu'il y a tout le temps en permanence la volonté de voir au bout du chemin une lumière. Sauf que nous amener vers cette lumière, nous amener vers cette manière dont ce personnage va non s'en sortir, avec, en faisant du cinéma, en filmant à chaque fois, en posant à chaque fois sa caméra au bon endroit, en mettant de la musique à chaque fois au bon moment, de faire un film extrêmement sensuel, y compris dans ses moments les plus rudes, avec une générosité que je trouve incroyable, et d'un seul coup, de filmer cette héroïne comme plus... Enfin, c'est une super héroïne à l'américaine, sauf qu'on est vraiment, je trouve, dans un film français, africain, par un réalisateur qui, voilà, de film en film... fait des choses encore plus belles. Moi, j'ai été vraiment, mais totalement conquis la première dernière minute, avec une première heure où j'étais encore plus fasciné. Moi, voilà, c'est un véritable choc et un des plus beaux films que j'ai vu depuis le début de l'année.
Très bien. Corinne Rondeau, vous l'avez vu Félicité, oui.
Je suis partagée par le film. C'est vrai que donc c'est l'histoire d'une femme forte. C'est la fierté d'une femme aussi, quand même. Ça pourrait être même le sous-titre du film. Cette femme qui se bat pour son fils, comme vous l'avez dit, est aussi une femme qui ne demande pas. Donc c'est très paradoxal, et elle apparaît à l'écran dès la première minute du film, dans une salle de concert qui ne ressemble pas à une salle de concert, qui est un café ouvert, on va dire. Et c'est vrai que la première scène a une dimension très chorale, et elle vous emporte, parce qu'en fait, il y a les sons, il y a le corps, il y a la voix, mais aussi il y a des voix dont on n'entend pas, mais on voit les bouches parler, et d'un coup il y a une sorte de... Autour de vous, il y a quelque chose de l'atmosphère de ce café qui vient à vous. Et je trouve que vraiment le mouvement de la caméra et le montage de cette première séquence est une très grande réussite pour incorporer le spectateur, notamment occidental, dans un environnement qu'il connaît pas, parce qu'il arrive à lui faire sentir les odeurs, il lui fait sentir la chaleur de l'espace, il lui fait reconnaître les lumières et les obscurités, il lui fait reconnaître les dangers des corps, leur degré d'alcoolisme. Et donc on est vraiment prêt. Deux, dans une proximité qui ne joue pas sur un sensualisme immédiat. Il y a quelque chose de la caméra du montage qui joue très très fort là-dessus. Puis peu à peu, effectivement, c'est comment on va ouvrir ce film au travers de ce personnage de Félicité, mais aussi celui de Tabou, ce personnage qui va petit à petit se accompagner cette femme de plus en plus près, tout en étant dans une distance très étrange et sans doute culturellement très présente entre les hommes et les femmes en Afrique, qui est assez miraculeux parfois. Et puis par ailleurs, effectivement, il y a des séquences, et là où j'ai un peu ce moment où moi j'ai décroché et qui ne me conduit pas à cette lumière vers la fin comme vous, cher Thierry, c'est qu'on a une sorte d'image où Félicité, dans un grain d'image très marqué, est en robe blanche. Et on voit bien que cette robe blanche n'annonce pas quelque chose d'un avenir, mais plutôt quelque chose d'une sorte de d'un passé étrange, un passé presque mythique. Et d'ailleurs, on aura la révélation de ce moment-là, métaphorique, plus tardivement dans le film. Pourquoi finalement cette femme est cette femme si fière? Pourquoi cette femme ne demande pas? On va le découvrir au fur et à mesure, quand elle va demander justement à quelqu'un de proche de l'aider, puisqu'elle n'a pas d'argent, alors que la monnaie circule très, 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 de manière très importante dans ce film. D'ailleurs, c'est très beau, cette manière de la relation à l'argent. Et donc, moi, j'ai eu l'impression que c'était un Africain en Occident, mais romantique. Qu'il y avait quelque chose d'un romantisme occidental et européen très marqué, qui venait irriguer notamment par les formes de coda, puisqu'il y a à la fois ces séquences de félicité, une sorte de passé étrange, mythique, voire mythologique. Et puis par ailleurs, cet orchestre de Kinshasa, symphonique, qu'on voit à trois moments, qui égrène les moments de scénario, vraiment. Et c'est comme une coda, ça revient, et en même temps, on vous chante comme un chœur. Il y a du lyrisme à ces endroits-là, mais c'est pas le lyrisme de l'image, c'est pas le lyrisme du scénario où on va être dans la pesanteur des sentiments, c'est pris en charge par, voilà, une idée du montage dans le montage, une idée d'une histoire dans une autre histoire. Donc, je trouve que c'est fait avec simplicité, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose d'une lourdeur quand tout se révèle à la fin, pour moi. Parce que ça vient à une sorte de coquetterie et de plaisanterie qui m'a pas apparu aussi importante et aussi dense et aussi forte que la première heure que j'ai passée avec le film.
Alors peut-être, comme on a parlé de Darius Kondji, dire que c'est Céline Bozon qui est une image de félicité, parce que ça fait quand même partie pour moi des grandes qualités de ce film. C'est quand même une lumière, un sens du cadre, enfin quelque chose qui est vraiment très, 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 très beau, à la fois dans ces moments de pénombre et de barre de nuit, mais aussi dans les pleines lumières, évidemment, de Kinshasa. Donc ça, c'est quand même un élément qui est important. Et la façon dont, bon, ça, c'est de la mise en scène aussi, dont les corps s'inscrivent dans l'espace, alors qu'il... Bon, je vois bien que Corinne Rondeau fait l'amour, vous reviendrez là-dessus, mais sur le fond, on a parlé il y a quelque temps ici de Marosa, de Brillante Mendoza, qui est donc un film sur une mère courage, qui, moi, m'avait quand même profondément déplu, et m'a encore plus déplu en découvrant Félicité, qui, pour moi, est l'anti-Marosa. C'est-à-dire qu'on a là une vraie, belle figure de mère qui est avec un cinéaste qui joue pas le misérabilisme sexy, je sais pas comment dire autrement, mais j'ai quelque chose chez Brillante Mendoza que je sens vraiment. Je sais que j'ai beaucoup aimé certains de ses premiers films là encore, mais là, il me semble qu'il file quand même un mauvais coton, et que ces films sont idéologiquement, presque au-delà d'éthiquement, même de plus en plus discutables. Et vraiment, Marosa m'avait laissé une impression très, ouais, désagréable. Et vraiment, Félicité, pour moi, l'anti-Marosa. Je mettrai ça sur le bandeau de l'affiche pour la publicité. Antoine Guillot.
Mais je suis assez d'accord avec vous.
Oh là là, à quelle émission?
Sans partager, on n'est pas d'accord sur James Gray, le dernier.
Sans partager ce que vous pensez de Marosa, je trouve que c'est effectivement l'anti-Marosa ou anti ce genre de film, et c'est un des gros intérêts. C'est-à-dire que le film dure 2 heures, et le combat de cette mère pour sauver la jambe de son fils, dont on ne dévoilera pas si elle arrive ou pas, est résolu au bout d'une heure. Et il reste encore une heure de film. Et à partir de là, le film part dans toute autre chose, y compris dans un certain enlisement que je trouve très, très intéressant, parce que c'est un moment de perdition et de choix possible entre les différents registres qu'il y a dans le film. C'est un film qui est quand même très curieux, qui fonctionne sur 4 ou 5 registres différents, sur les parties de bar, effectivement, où elle chante et où se monte une espèce de ferveur, de transe qui lui emporte également le spectateur. Le côté mélodrame de la pauvreté et de la mère courage. Ces moments musicaux avec l'orchestre symphonique de Kinshasa qui interprète du Arvo Pärt. Au début, on ne comprend pas du tout.
Encore Arvo Pärt.
Oui, mais en plus, dans des répétitions, le son n'est pas très sûr, c'est assez fluctuant. Au début, on se dit, c'est quand même pas formidable. Et puis, on se retrouve au fur et à mesure à être emporté. Il y a ces séquences dont on ne sait si ce sont des séquences du passé, des séquences oniriques, de purs espaces mentaux ou de figurations métaphoriques de ce que traverse le personnage. Plus, et en cinquième strat, des plans purement documentaires qu'Alain Gomis a délégué à un cinéaste documentariste congolais qui s'appelle Dieudo Amadi, qui sont tournés vraiment sur le fil à Kinshasa.
Et sixième strate, la comédie, parce qu'il y a quand même des éléments de comédie africaine sens vraiment télévisuel.
Avec la citation d'ailleurs de ces feuilletons télévisés. Bon. Et alors, ce qui est très surprenant, c'est déjà la façon de naviguer par le montage entre ces différentes strates, mais aussi comment elles s'interpénètrent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la musique musique de l'un va sur les images de l'autre, où on ne sait plus trop où on est, et ce qu'on croit être l'histoire d'une mère qui veut sauver son fils et l'histoire d'une femme avant tout, et des chemins sinueux pour rencontrer un amour, et quel drôle d'amour on finit par rencontrer, avec cette fin qui n'en finit pas de finir. C'est là que je parlais d'enlisement par moment, comme les marécages qu'on voit dans les séquences oniriques ou mentales, mais justement le fait que le film échappe à son programme et nous entraîne dans des sentiers très inattendus, moi, mais énormément séduit. Et puis aussi, quel bonheur quand un film est produit, parce que la plupart des films africains, on le sait, sont produits par des Français, c'est le cas encore ici, que ça ne parle pas français. C'est-à-dire qu'ils aient renoncé au système d'aide de financement français qui impose que 50% au moins des dialogues soient en français. Là, c'est du lingala tout le temps et c'est formidable.
Un petit mot de Lucille Comeau. Je vois que le temps file absolument, mais c'est la faute de James Gray, ça. Allez-y, Lucille.
Moi, je me suis quand même beaucoup ennuyée dans ce film auquel je reconnais beaucoup de qualité, mais c'est vrai que la deuxième heure m'a paru assez pénible. Et ce que vous dites sur... Je trouve pas que la deuxième heure dérange ce qui se met en place dans la première. Et je trouve que quand même, il y a une forme de linéarité dans la manière de présenter à nouveau, en effet, comme Marosa, même si c'est en effet pas du tout le même film, un portrait de femme forte. J'avoue que j'en ai un petit peu marre, moi, personnellement. Je trouve que ça devient un peu un cliché cinématographique.
Ce qui est beau, c'est que dans la deuxième partie, elle n'est pas forte, justement. Elle cherche sa force. Elle n'est plus dans cette démonstration forte.
Je trouve que c'est pas si facile d'opposer la première et la deuxième partie de ce point de vue-là. Et je trouve que l'enlisement conduit quand même à une forme de lourdeur que la musique, par exemple, accentue aussi, je trouve. Je trouve que la manière dont sont filmées les scènes musicales sont aussi un peu de l'ordre du cliché, cette espèce de transe, quand elle chante, elle, notamment. Je trouve pas ça très intéressant. J'ai pas été passionnée par le film. J'ai trouvé ça un peu lourd.
Corinne Rondeau.
Moi, ce qui m'a fatiguée, c'est les systématisations. Lumière, d'un coup, clac, voilà, ça fait mal aux yeux. Oh, obscurité, lumière. Les codas, l'orchestre, cette scène dans la l'initiation, puisque c'est aussi ce film habillé en blanc, il y a quelque chose d'initiatique. Bon, moi, je l'ai mis sur un passé au début à cause du grain, de la nuit, etc. Bon, par ailleurs, après, oui. Mais moi, je trouve qu'il cherche à l'intérieur de son montage, le film lui-même, au-delà même de ce qui a été filmé. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose de la fin qui n'est pas allé jusqu'à moi. Voilà, c'est juste ça. Mais par ailleurs, je trouve que cette femme, elle hypnotise l'écran littéralement. Cette actrice qui s'appelle Vero Tsandab Beya. Et je trouve qu'elle a vraiment une présence qui est sidérante, même par son mutisme, quoi, parfois.
Félicité d'Alain Gomis sort demain. Allez voir par vous-même.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le troisième film à notre affiche, c'est Orpheline d'un autre cinéaste que je place très haut, le très rare Arnaud Despalières, qui depuis Drancy à venir, il y a 20 ans, tout de même creuse un sillon très singulier dans le cinéma, après Parc, qui était adapté d'un roman de John Cheever, et il avait livré son film, en tout cas jusqu'à présent, le plus simple d'accès, mais le public n'avait pas été là ce rendez-vous. Michael Colas, qui était sélectionné à Cannes, le jury de cette année-là avait manqué l'occasion de distinguer un film d'une folle ambition. Orpheline, donc c'est un nouveau film, encore une fois, très singulier. On ne va pas avoir le temps d'écouter la bande-annonce, parce que j'aimerais que vous ayez le temps de dire quelques petits mots quand même les uns et les autres, parce que c'est un film singulier qui croise, on va dire, l'histoire de quatre femmes, fait preuve d'une liberté dramaturgique, scénaristique que j'ai rarement vue. Je ne me livrerai pas à l'exercice du pitch, ce résumé du scénario, parce que ça m'intéresse de confronter ce que nous avons vu les uns et les autres dans ce film, parce que j'avoue que quand j'ai découvert effectivement les résumés dans le dossier de presse, j'avais pas du tout compris ce qu'on est censé voir dans ce film. Tiens, Corinne Rondeau, ouvrez le bal sur Orpheline.
Eh bien, ça commence sur un montage parallèle entre une femme dans une prison et une femme dans une école, une directrice d'école, qui est jouée par Adèle Hanael, et l'autre qui est jouée par Jenna Atherton, dont les physiques sont une sorte de collision cosmogonique, on pourrait dire. Et on comprend d'ailleurs pourquoi Jenna Atherton est une sorte de personnage dont le physique ne ressemble pas du tout à Adèle Atherton, puisque...
Adèle Atherton.
Pardon, Adèle Hanael. Pour lui donner un peu d'Atherton, peut-être. Et donc ce montage parallèle est un peu intriguant au départ, puisque c'est quand même deux institutions, mais qui ne sont pas les mêmes, même si un peu de l'enfermement dans les deux. Et donc, ce qui se joue là est une rencontre, a priori, entre elles, on peut l'imaginer. Et évidemment, elle va se passer aussi dans le temps, puisque le personnage qu'on découvre se met en abîme avec un autre personnage, puis ensuite un autre personnage plus jeune encore, jusqu'à une toute petite fille, qui nous permettra en fait de reconsidérer une histoire, puisqu'en fait, ces jeunes femmes, c'est une sorte de flashback d'une histoire, dont on va voir les moments les plus forts, extrêmement violent. Ce film m'a extrêmement déplu à ces endroits-là d'ailleurs. Je trouve qu'il y a un excès de réalisme sur les rapports de violence entre hommes et femmes. Par ailleurs, il peut y avoir aussi des hommes tendres, il faut le savoir. Hein. Les hommes sont binaires, ils sont soit violents, soit tendres. Et donc ce film a un petit peu, je dois dire, énervé. Je l'ai trouvé finalement avec une intelligence sur la partie réaliste et des faiblesses sur le début du film et sur la fin du film, puisqu'il y a des résolutions aussi. Pourquoi cette fille est-elle là où elle est au début du film? Et pourquoi n'ira-t-elle pas où on l'a conduit, avec une vie en elle, peut-être une autre vie, puisque c'est le destin d'une femme, hein. Donc je ne dois rien révéler, puisqu'en fait tout le film réside dans le fait de voir ou ne pas voir. Bon, il y a des indices, hein, parce qu'au cas où on verrait pas, il y a des indices pour nous faire comprendre qu'il y a un film entre ces quatre personnages. Alors, comme je ne sais pas s'il faut le dire ou pas, eh bien je laisse mes camarades le soin de le dévoiler ou
Antoine
pas.
Antoine Guillot, c'est le camarade suivant, pour parler d'Orpheline.
Je trouve ce film assez passionnant, d'abord parce qu'il réussit à faire d'une idée théorique une vraie incarnation au cinéma, en prenant effectivement quatre actrices dans une sorte de... je dirais pas des feuillages, mais c'est plus la sédimentation, l'idée de gratton pour remonter à l'enfance. Alors, il y a quelque chose de très psychanalytique quasiment dans cette démarche, mais qui ne remonte pas à un trauma enfantin, qui remonte à tout ce qui peut rendre un personnage complexe, quoi. Alors, de le faire jouer par quatre personnages différents, à moins que ce soit quatre femmes différentes, vous pourrez vous faire votre film chacun, d'autant que les personnages n'ont pas le même prénom, histoire de d'égarer un peu plus possiblement le spectateur, marche très bien, parce que j'aime beaucoup la manière de... qu'Arnaud Despalières de les filmer, ces femmes. Ce sont des peaux sans fard la plupart du temps, alors qu'en fait il y a du maquillage, mais qui donne l'impression qu'il n'y en a pas, sauf pour le personnage de Gemma Arterton, qui elle avance toujours un peu masqué. Et je trouve que cette utilisation qui m'avait pas frappé chez lui auparavant, donc je pense que c'est assez nouveau, du gros plan, voire du très gros plan sur les corps, et pour moi une démarche de peintre complètement. Et j'ai été frappé par c'est la première fois que j'ai été autant frappé par la dimension picturale des films d'Arnaud Despalières, que j'ai toujours trouvé très riche, très complexe, très produisant beaucoup de réflexions, me perdant aussi par moments. Mais voilà, le film a vraiment porté pour ça, pour ce regard de peintre, je dirais.
Thierry Chaise.
Moi, j'ai beaucoup aimé me perdre, en effet. Ça, c'est vraiment... Quand on voit ce film, on avance et on ne sait pas où on est. Et quand je commence à reconstituer un peu... l'histoire que moi j'y vois, j'étais un peu déçu, comme si la belle idée justement cérébrale se traduit en effet en image, mais je trouve que dans le récit pris partie par partie, je trouve qu'il y a certaines faiblesses, le moment de l'adolescence notamment, moi
c'est la partie que je préfère.
Moi ça m'a vraiment gêné. Je trouve que dans la qualité aussi d'interprétation des quatre, j'ai l'impression qu'Adèle Exarchopoulos, à chaque film maintenant, lui demande de jouer exactement la même chose.
C'est il faudrait qu'elle soit capable d'autre chose.
Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'on lui demande ça? Et je trouve que d'un seul coup, sa partie, elle, est aussi faible par rapport à ça. J'aime beaucoup le jeu de celle qui joue l'enfant. J'aime beaucoup Solène Rigaud, qui est une actrice qui, depuis 17 filles, est vraiment une puissance absolument incroyable. Et justement, quand on voit Solène Rigaud et Adèle Exarchopoulos, je trouve que c'est assez gênant dans un cas par rapport à l'autre. Et au final, quand je parlais tout à l'heure vraiment du fait que j'avais été emporté par Félicité, là, je reste tout le temps à distance. Alors, par moments, en effet, très gêné par ce que je vois et dérangé, donc ce qui n'est pas un... Mais d'habitude, moi, dans les films d'Arnaud Despalières, j'ai vraiment... Il y a cette cérébralité, il y a quelque chose qui me touche plus. Là, je suis toujours resté à distance. Je vois le geste que je trouve assez épatant, et en même temps, ce que ça transmet à l'écran me laisse beaucoup plus circonspect.
Oui, je suis pas sûr de savoir ce que je pense de ce film, qu'il faudrait que je revoie, en effet, parce que j'étais sans cesse partagé entre un trouble, alors pour le coup, dans lequel j'étais plutôt bien, c'est-à-dire l'opacité, ne pas comprendre où je suis tout à fait, où ce récit va, avec effectivement deux comédiennes qui sont vraiment pas parmi mes préférées. Bon, Adèle Exarchopoulos, pas du tout, mais Adèle Haenel, moi j'ai quand même beaucoup de mal. Et voilà, j'ai retrouvé le mal que j'avais qu'elle d'habitude dans ce film-là. J'étais plutôt surpris, par contre, de voir Jalil Esper, que je croyais perdu pour la cause, apporter quelque chose de, alors, d'une figure masculine un peu différente, effectivement, de ce qu'il a pu faire auparavant. Mais j'ai eu aussi, moi, du mal avec cette façon d'aller dans la chair, dans les peaux et dans une forme de regard très, comment vous disiez, violent sur les corps des femmes, Corinne Rondeau. Mais j'ai été aussi mal à l'aise avec ça. Et en même temps, bon, c'est un des sujets du film. Donc, comment est-ce qu'on filme ce sujet-là d'un rapport à la sexualité et au corps qui est très, très dur, très violent et qui est, alors, subi, choisi. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui sont posées, qui sont un peu indéterminées. Je pense que c'est pas un film qu'on peut voir en étant tout à fait confortablement installé dans son fauteuil. Mais la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'est pas confortable. Est-ce que c'est la réussite du film ou est-ce que c'est la limite du film? Donc, c'est là que je suis, pardon, je suis un peu, non pas confus, mais parce que ce film me laisse dans une forme d'indécision.
Non, moi, je suis pas du tout indécise quant au film. Je pense qu'il y a... L'idée du plan, du très gros plan, m'a beaucoup gênée parce que ça finit par faire mur. Alors quand on n'aime pas non plus le jeu de certaines actrices, c'est très compliqué. Donc ça crée une limite, je dirais, à la manière dont on va voir certaines scènes, comment elles vont être jouées. Moi, je suis pas du tout troublée par ce film parce que c'est une manière de dire je vais enlever toutes les causalités de l'origine potentielle d'un trauma en le montant justement à l'envers. Ce qui fait qu'en fait, là où on enlève toutes les causalités, les effets, les conséquences, les logiques, les raisons de ce que vit cette femme adulte, puis peu à peu ce qu'elle a vécu d'un âge de plus en plus jeune, fait qu'effectivement, il a le désir, ce film, de dire toute cette violence, c'est pas celle qui est... Elle n'a pas l'origine qu'on pourrait croire, et je veux vous enlever cette idée qu'il n'y a pas l'origine d'eux. Sauf que, malgré tout, dans les ellipses de ces quatre personnages, de ces quatre femmes, de ces quatre temps de vie, il y a des bouts qu'ils raccordent en écho. Et donc moi, je n'ai pas du tout été perdue par le film parce que les actrices ont le même regard, elles ont les mêmes lignes de visage, même s'il y a une blonde à la fin et la petite, même s'il y a deux brunes, Ségolène Ricaud ressemble à Adèle Exarchopoulos. Elles ont les mêmes types d'épaules, les mêmes regards. On voit très bien que c'est la même. Il faut être aveugle pour pas le voir. Donc il n'y a pas d'indécision. Moi, ce qui me gêne, c'est cette manière.
Oui, mon micro. Il faut que je conclue l'émission.
Non, voilà. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'il y a une partie qui est réaliste et qui semble-t-il est tenue 100% par le scénario de sa co-scénariste. Et là, on ne peut pas toucher le film parce que si c'est vraiment
sa vie, autobiographique, c'est ce qu'on nous dit.
Et qu'il y a toute la violence et tout le coup et toute la chair et tout le corps qui y est, c'est difficile de dire. C'est plus fort ça, et c'est plus douloureux à voir que les extrémités, qui sont une forme métaphorique et une forme peut-être même de rédemption de la vie, de celle qu'on a vécue. Donc moi, je pense qu'il y a cette division-là qui se joue entre qu'a-t-on vécu et que pourrait-on vivre.
Orpheline, c'est la BO de l'année, hein, par ailleurs. Hein. J'aimerais bien avoir la liste des morceaux du film. Ah bah ouais, alors là, vraiment, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé tout ce qu'il a mis dans ce film, Arnaud Despalières. Vous ne vous rappelez pas, mais moi, ça m'a beaucoup marqué. C'est pas comme James Gray. Je plaisante, hein, Lucille. Orpheline, d'Arnaud Despalières, sort demain sur les écrans. On conclut avec le jeu de la dispute. Lucille, connaître la réponse et la question du jeu d'hier.
Le film d'Andric Dussolier, dont j'ai oublié le nom, mais dont on fait gagner les DVD, ou non, des places, se passe à Chongqing, ville chinoise. Je sais que c'est dans la sélection cinéma du réel, mais je ne me souviens plus du nom du film. Enfin bref. Se passe à Chongqing, qui est une ville chinoise qui connaît ces dernières années de gigantesques agrandissements, notamment pour accueillir des populations déplacées. Déplacées par quoi? Et la réponse, elle, les travaux du barrage des Trois Gorges.
Bon, allez, en l'occurrence, le titre est un nom du quartier de cette ville. Donc ouais, vous pouvez le retrouver facilement, finalement.
Bon, ça tombe bien, comme on n'avait plus le temps. On fait gagner des DVD du film Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier, édité par Pâté la question.
Dans le film, Tavernier désigne celui qui est, selon lui, le plus grand acteur français. De qui s'agit-il?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et toutes les informations sur cette émission sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Demain, 21h, dispute, art plastique, Corinne Rondeau, Elisabeth Franck Dumas. À notre affiche Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky au musée d'Orsay. A Capella, c'est Bertrand Lavie à la galerie Alminresh. On évoquera aussi Michelangelo et Sébastien à la National Gallery de Londres. Alighiero Boetti à la galerie Tornabuoni. Dans quelques instants, maintenant très vite, le journal de la rédaction.